De Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Qui a trahi Anne Frank et fait arrêter toute sa famille à Amsterdam dans la cachette où elle écrivait son journal? Ce serait un notaire juif en échange de la protection de sa propre famille. Conclusion dérangeante d'une grande enquête menée par un ancien du FBI et révélée dans un livre. Détail dans un instant. Jean-Michel Blanquer et ses vacances à Ibiza pendant les fêtes. Elle crée la polémique à gauche et dans les syndicats sur le thème du ministre en décalage avec ses troupes en plein Covid. La gauche et sa myriade de candidats, la dernière en date, sera l'invité du grand entretien, Nicolas.
Il s'agit, oui, Florence, de Christiane Taubira, à notre micro avec Léa vers 8h22. Vous avez la parole, 01 45 24 7000, sur les réseaux sociaux également, et l'application de France Inter.
D'ici là, des fouilles massives dans le Tarn pour retrouver le corps de Delphine Jubilard. Son mari l'a-t-il enterré sur le terrain d'une ferme incendiée? Un Nutri-Score personnalisé, c'est une appli qui nous dit ce qu'on peut manger en fonction de notre âge et de notre sexe, le renouveau de la Poste du Louvre à Paris et un documentaire à voir absolument sur France 2 ce soir sur la condition des Noirs en France, signé Alain Mabankou.
France Inter.
Comment sont-ils tombés sur cette bibliothèque coulissante derrière laquelle se trouvait la cachette d'Anne Frank et de sa famille? SS et policiers étaient forcément informés ce 1er août 1944 à Amsterdam. Mais qui a trahi Anne Frank? C'est le titre d'un livre qui sort demain. La Canadienne Rosemary Sullivan y révèle que c'est un notaire juif qui aurait donc dénoncé la famille Frank pour sauver la sienne. Cette question lancinante aux Pays-Bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a donc peut-être été résolue après 5 ans d'investigation. Ilana Moriousef, une enquête exceptionnelle.
En effet, c'est une enquête qui a mobilisé des historiens, des enquêteurs, des criminologues, des spécialistes du profilage et surtout les ressources de l'intelligence artificielle. C'est ce qui a permis de compiler des millions de données relatives à l'affaire et d'établir des liens encore jamais apparus entre des dates, des personnes, des adresses et des événements. L'enquête a été lancée à l'origine par un cinéaste et un journaliste néerlandais. Ils en ont confié la direction à un ancien du FBI, plus habitué à chasser les barons de la drogue que les criminels nazis, mais qui a été recruté, semble-t-il, pour sa méthode.
La conclusion, c'est donc la trahison d'un notaire juif d'Amsterdam. Qu'est-ce qui a permis de remonter jusqu'à lui, Ilana?
Eh bien, en reprenant tout depuis le début, l'équipe est tombée sur la copie d'une lettre anonyme reçue par le père d'Anne Frank à son retour de déportation. Cette lettre indique que c'est ce notaire qui a donné aux nazis l'adresse de la cachette de la famille Frank, mais aussi d'autres adresses où des juifs se cachaient. Alors pourquoi l'aurait-il fait? Eh bien, pour sauver sa propre famille. Ce notaire avait l'une des études les plus florissantes d'Amsterdam. Du fait de sa position dans la communauté juive, il aurait eu accès à des informations qu'il a pu vouloir monnayer en échange de sa protection. Ni lui, ni sa famille n'ont été déportés. C'est évidemment une conclusion dérangeante, ce n'est pas une vérité intangible. Dès hier, le directeur de la maison Anne Frank appelait à se montrer très prudent.
Ilana Moriousef, merci. Qui a trahi Anne Frank? Plusieurs historiens estiment en effet que la thèse doit encore être étayée. Mais quoi qu'il en soit, il faut se garder de tout jugement hâtif, estime Yannis Roder. Pour le responsable des formations au mémorial parisien de la Shoah, cette enquête ne doit pas occulter l'histoire.
Il ne faut pas se tromper. Qui met cette famille ou ce notaire on ne sait pas s'il a dénoncé ou pas, qui met le notaire dans ce dilemme absolument horrible? Ce sont les nazis qui, partout en Europe, ont mis les juifs dans des situations abominables, parfois de faire des choix absolument horribles. Donc, il faut se garder d'un jugement moral de cette époque. Et le risque, si vous voulez, de pointer tel ou tel coupable, et notamment ce notaire, c'est de déplacer la culpabilité des nazis vers ce notaire, notable juif d'Amsterdam. Il faut faire attention parce que se dire que c'est un juif qui a dénoncé d'autres juifs, ce serait pour certains se déculpabiliser, en quelque sorte. Et finalement, de faire sortir les juifs dans leur imaginaire, de cette image de victime, et de se dire que finalement, ils sont pas mieux que nous, donc on peut aussi en dire du mal.
Yannis Roder, spécialiste de l'histoire de la Shoah, interrogé par Faustine Calmel.
Il est 8h06, Florence, mais qu'allait-il faire à Ibiza?
La nouvelle galère de Jean-Michel Blanquer, ses vacances dévoilées par Mediapart et qui crée la polémique. C'est de là-bas qu'il a annoncé le protocole sanitaire des écoles aux Parisiens le dimanche de la veille de la rentrée de janvier. 4 jours de vacances aux Baléares pour un ministre, est-ce un problème? Oui, selon les syndicats qui dénoncent sa légèreté et sa désinvolture, appuyé par Yannick Jadot qui conspue un coup médiatique les pieds dans le sable, et par Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Je n'indigne pas du fait qu'un ministre puisse prendre des vacances. Il en a le droit et personne ne lui reprochera. Non, ce que je reproche au ministre, c'est d'avoir improvisé cette rentrée avec des enseignants qui ne savaient pas à quel fin se vouer à quelques heures même de la rentrée, des parents d'élèves qui ne savaient pas davantage ce que serait ce protocole, et on découvre que cette improvisation, elle naît d'un mensonge. Il y a les vacances d'un ministre qui n'est pas revenu à temps et qui continuait à être en villégiature à un moment où tout le monde attendait en réalité ses consignes. C'est le sentiment du retour du bling-bling à un moment où on demande à tous les autres de se serrer la ceinture et où on improvise une solution à un moment où tout le monde est dans l'attente du plus grand sérieux, de la plus grande constance dans une recrue épidémique qui a été particulièrement intense avec Omicron.
Olivier Faure sur France Info, réaction du cabinet du ministre interrogé par Le Monde. S'il avait été à Paris, ça n'aurait rien changé, ni sur le protocole, ni sur le moment où il a été annoncé. Rappelons que les syndicats de l'éducation appellent de nouveau à la grève ce jeudi. Autre polémique du nouvel an, c'était le drapeau européen déployé sous l'Arc de Triomphe à Paris. La droite y avait vu un abandon de souveraineté alors qu'Emmanuel Macron prenait la présidence du Conseil de l'Union. L'image est reprise sur des affiches et des tracts. Campagne lancée par le parti présidentiel à la veille du discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement à Strasbourg. La campagne encore et les vœux du candidat communiste Fabien Roussel, donné au même niveau qu'Anne Hidalgo dans les sondages à 3%, mais pas question de faire de la figuration dans cette course à la présidentielle, même si certains chez lui lorgnent du côté de Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel annonce d'ailleurs un grand meeting sur les terres de l'insoumis à Marseille le 5 février prochain, Laurence Perron.
Les jours heureux affichés en grand sur la façade du siège du Parti communiste français, place du colonel Fabien à Paris, le slogan de la campagne d'un Fabien Roussel qui entend bien en découdre avec l'ancien allié Jean-Luc Mélenchon.
Je vous donne rendez-vous à Marseille le 6 février prochain, où ça sentira bon la fraternité, la joie, la bonne humeur et la sueur. Ce sera olfactif mais naturel.
Un petit tacle à ceux qui, comme le député Sébastien Jumel,
je fais le choix de mettre ma force au service de la campagne conduite par Jean-Luc Mélenchon.
J'invite à ne pas céder à ces petites tentatives de division, à pas jouer personnel, mais plutôt collectif. C'est le sens de la famille.
Un autre tir en direction des écologistes, qui lui ont reproché sa sortie. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, c'est ça la gastronomie française.
Je continuerai de mettre les pieds dans le plat.
Pour le reste, un plaidoyer pour que les peuples puissent tous avoir accès aux vaccins, pour les services publics, pour la réindustrialisation, une ode aux soignants et un zéro pointé à la politique de soutien du pouvoir d'achat du gouvernement.
Le gouvernement fait le choix de l'insulte et du mépris, en leur distribuant des billets de 100 euros.
Des vœux, en somme, assez convenus, mais joyeux.
Bonne année, bonne santé et beaucoup d'argent dans le porte-monnaie.
À l'image du patron d'un parti qui entend restaurer l'image d'un communisme heureux et populaire.
Voilà, Fabien Roussel à Marseille, ce sera bien le 6 février prochain. Elle avait 20 ans, elle a été tuée à l'arme blanche hier soir dans son appartement de Besançon. Son compagnon a été arrêté, l'enquête s'oriente vers un féminicide. C'est aussi la conclusion que les enquêteurs cherchent à prouver dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard il y a un an. Son mari est mis en examen pour meurtre, emprisonné depuis l'été. Mais le corps de la jeune femme n'a toujours pas été retrouvé. De grandes fouilles ont donc été lancées hier à proximité de leur domicile de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. David Di Giacomo.
Les enquêteurs cherchent à vérifier les confessions accablantes de Cédric Jubilard à un ancien voisin de cellule. D'après cet ex-détenu, le mari de Delphine lui a confié avoir tué, puis enterré sa femme près d'un arbre, non loin d'une ferme qui a brûlé en avril dernier. Les fouilles se concentrent donc dans cette zone, sur la commune de Cagnac-les-Mines où vivait le couple. Les proches de l'infirmière restent toutefois prudents face à ces révélations. Philippe Pressec est l'avocat de la cousine de Delphine Jubilard.
Nous sommes un peu dubitatifs parce que ce sont des fouilles qui sont générées par les rodomontades, les provocations et les dires de Cédric Jubilard qui, du fond de sa cellule, continue à essayer d'entraîner les enquêteurs sur des pistes qu'il crée lui-même. Donc nous verrons, mais pour l'instant nous sommes dubitatifs.
De leur côté, les gendarmes se laissent plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour fouiller une vaste zone accidentée et boisée. Des militaires d'une unité d'élite du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban sont aussi engagés. Équipés de détecteurs de métaux et de géoradars ultra sophistiqués, ils sont spécialisés dans la recherche de corps enterrés sur des terrains difficiles.
Voilà, les fouilles devraient durer plusieurs jours. Au large du Maroc, c'est encore un drame de l'exil. 43 migrants, dont 3 bébés et 4 14 femmes ont péri dimanche après le naufrage de leur embarcation. 10 survivants recueillis par une ONG espagnole. Ils venaient principalement d'Afrique subsaharienne. Et puis un signal de détresse a été détecté dans une île de l'archipel des Tonga, coupée du monde après l'éruption et le tsunami qui l'ont frappé samedi. L'île est habitée par une trentaine de personnes. Selon l'ONU, les dégâts y sont très importants. Un premier décès a été confirmé dans l'archipel qu'il ne bénéficie encore d'aucun secours. Des avions australiens et néo-zélandais sont prêts à décoller pour leur apporter de l'aide quand le nuage de cendres sera dissipé.
Il est 8h11, Florence. Manger un gâteau ou le paquet entier, ça n'est pas la même chose.
Et c'est encore différent selon qu'on est un enfant de 8 ans, un ado de 15 ou un homme de 40 ans. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Du coup, le Nutri-Score ne nous est pas toujours d'un grand secours sur les emballages des aliments. L'appli gratuite MyLabel propose donc une évaluation différente, un Nutri-Perso qui nous parle de quantité en fonction de notre âge et de notre sexe. Agnès Soubiran.
Prenons un exemple. Un jus de fruit peut être noté en jaune par le Nutri-Score, mais pour un enfant de 8 ans qui va boire une briquette de 200 ml, le Nutri-Score vire alors au rouge. A contrario, le chocolat, noté rouge la plupart du temps, passe au vert pour une femme de 40 ans qui n'en consomme en moyenne que 15 grammes par jour. L'idée est donc d'être attentif aux quantités en fonction de son profil. Christophe Urbain est le fondateur de l'appli MyLabel.
Le Nutri-Score vous permet de voir si un produit est gras, sucré, salé. Et là, on va aller un petit peu plus loin, bien. Ok, si j'adapte mon comportement, ça va être encore gras, sucré, salé, voire encore plus, parce que finalement on en consomme plus que ce qu'on pensait. Ou alors, si j'adapte et j'en consomme un petit peu moins, ça passe.
Ces profils, ces quantités ont été établis avec le concours du CREDOC, le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des Conditions de Vie. Pascale Hébel, sa directrice, souligne l'importance de personnaliser les conseils.
Ce qui est compliqué, c'est quand il y a plein de labels et qu'on ne comprend plus très bien entre tous les affichages qu'il y a sur un produit. C'est pour ça que finalement, avec les outils digitaux, on peut personnaliser, on peut calculer son régime alimentaire et c'est ce qui compte pour notre état de santé à chacun. C'est ce qu'on fait chacun sur la fréquence, la quantité de chaque aliment.
L'objectif est donc bien d'adapter son alimentation à ses besoins et de se permettre ainsi quelques plaisirs sans culpabilité.
Agnès Soubiran, après 5 ans de travaux, la grande poste du Louvre rouvre ses portes au public cet après-midi. Bâtiment historique du centre de Paris, il a été rénové avec l'aide de l'architecte Dominique Perrault, à qui l'on doit notamment la bibliothèque François Mitterrand, complètement transformé. L'ancien hôtel des postes n'est plus uniquement dédié à la distribution du courrier, non Yann Gallic, il abrite aussi des bureaux, des commerces ou encore un hôtel de luxe.
Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, construit en 1886, le nouveau bureau de poste a remplacé les traditionnels guichets par des écrans tactiles. Linda Prince est la directrice de la Poste du Louvre.
Nos clients vont être accueillis par des chargés de clientèle. Ils travaillent sur des smartphones. Ils vont pouvoir rendre tous les services rendus en bureau de poste, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.
La distribution du courrier ne sera plus qu'une activité parmi d'autres dans cet immeuble de 32 000 m² dont la Poste reste l'unique propriétaire. Benoît Hunal est le directeur d'exploitation du site.
Il y a un hôtel 5 étoiles, son restaurant, des commerces, un commissariat, on a une halte garderie. Ça fait partie de la transformation du groupe La Poste que de faire des rénovations d'immeubles qui sont devenus trop grands pour notre usage propre, de les partager pour s'ouvrir vers des activités qui vont nous rapporter mais qui permettent d'apporter du service au cœur de la ville.
Il y aura aussi une vingtaine de logements sociaux, mais c'est largement insuffisant, regrette Christine Nedelec, la présidente de l'association SOS Paris.
Est-ce que c'est encore la Poste du Louvre? Ça, j'en suis pas sûre. Et en tout cas, on est en train quand même de transformer Paris Centre en supermarché de luxe. C'est pas quelques logements sociaux qui vont inverser la tendance actuelle.
Malgré ces critiques, La Poste espère rentabiliser rapidement son investissement, sachant que cette rénovation lui a coûté près de 150 millions d'euros.
Yann Gallic, 3 matchs et 3 victoires pour les Bleus du handball, qualifiés hier soir pour le tour principal de l'Euro en battant la Serbie. On saura ce soir à qui ils auront affaire jeudi à Budapest. Enfin, on le connaît surtout pour ses romans, mais l'écrivain Alain Mabankou signe aujourd'hui un documentaire avec la réalisatrice Aurélia Perrault, Noir en France, à voir ce soir sur France 2. Une revue détaillée, Alexandra Akoun, des préjugés tenaces auxquels les Noirs doivent encore faire face.
Qu'ils souhaitent être soignants ou maîtresses de conférences à l'université, lycéens ou sportifs de haut niveau, anonymes ou célèbres comme Jean-Pascal Zadi, Soprano, Yannick Noah, c'est dans le regard de l'autre qu'ils ont découvert dès l'enfance leurs différences.
Quand je suis arrivé en pension, j'étais le seul non-blanc de toute la pension et je suis devenu bamboula au bout de quelques minutes.
De la maternelle au monde du travail, ils sont une quinzaine à témoigner de leur trajectoire de vie, des parcours marqués de clichés, d'injustices et de préjugés.
Je me suis inscrite au conservatoire en section classique. musique. La secrétaire à l'accueil m'a dit « Oui, mais vous savez, il n'y a pas de cours de hip-hop ici. »
Où l'on voit l'importance des modèles et des inspirations. Ça n'est par exemple qu'en 1998, avec Kirikou et la sorcière, qu'un dessin animé français a pour héros un noir.
Avant cette date, des générations entières ont grandi avec les stéréotypes du noir primitif. Du noir divertissant.
C'est un sacré rigolo, lui.
Du noir naïf.
Je m'appelle Bamboula.
Et cannibale.
Des préjugés dont Alain Mabankou, également ici narrateur, et Aurélia Perrault s'attache à l'aide d'archives à remonter le fil jusqu'au XVIIIe siècle pour mieux nous faire voir à quel point ils ont la vie dure, aujourd'hui encore. Ce pourrait être victimaire, c'est tout le contraire.
On est né ici, donc on a le droit de se rêver astronaute, physicien, on a le droit de se rêver cuisinier. Et je trouve ça fantastique parce qu'on est une génération qui a le droit de rêver.
Et c'est plein d'espoir.
Noir en France, ce soir à 21h sur France 2, Alain Mabankou sera l'invité de l'Instant M tout à l'heure à 9h40.
Merci Florence Paracuelos. La météo, je vais la chanter.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Les matins se suivent et se ressemblent, Marie-Pierre Planchon.
Avec son lot de grisailles et de brouillard.
Allez, on y va.
On va faire pleuvoir. Oui. Donc oui, c'est brouillard sur les deux tiers nord du pays, des Hauts-de-France à l'Auvergne, à cause de ces conditions anticycloniques qui n'évolueront pas beaucoup. Ces brouillards sont parfois givrants. En revanche, des Charentes au Périgord, au Limousin, aux Cévennes, à la Méditerranée, des Pyrénées aux Alpes, au Jura, le soleil va se lever sous de nombreuses gelées comme à Saint-Maximin, à la Seine-Baume. Il fait moins 6, vous avez moins 5 à Saint-Girons, moins 3 à Brive, moins 1 à Bordeaux comme à Mulhouse ou à Guéret ou à Caen, 2 à Paris et Calvi, 3 à Brest et 10 à Alistraux.
Et on espère un peu plus d'éclaircies cet après-midi.
Oui, car la grisaille est capricieuse, mais avec l'arrivée d'un flux d'est sur la moitié nord, eh bien les grisailles vont se morceler, surtout du Grand Est, des Hauts-de-France à la région parisienne, mais de la Bretagne au Pays de la Loire à la Normandie, ces nuages bas resteront un peu plus compacts. En revanche, le massif central va se dégager et au sud de la Loire, le soleil est assuré de briller, excepté autour de la Garonne, toujours où la grisaille sera tenace. À noter que des nuages maritimes vont gagner les côtes méditerranéennes et Corse. Les températures seront hivernales au plus bas. Il fera 2 à Lons-le-Saunier, 3 à Lyon et à Agen, 5 à Nancy et Bordeaux, pas plus de 6 au Havre, 7 à Paris, 11 Montpellier, 14 à Toulon et Bastia.
Merci Marie-Pierre, à tout à l'heure. France Inter, 8h18.